Bon, alors, d'abord, je voudrais dire que je suis très content d'être ici. Ça fait de nombreuses années que je viens, j'ai parlé ici, j'ai parlé aux Amphis du Savoir, j'ai fait Domba exploiter de façon éhontée. Mais finalement, c'est toujours un plaisir d'être là. En plus, ma mère était de Saint-Mexant-l'École, donc j'ai toujours l'impression de revenir un peu chez moi quand je viens ici, et c'est bien agréable. Bon, alors, je suis censé ouvrir la table ronde. Alors, pour ouvrir une table ronde, je me suis dit que j'allais préciser 2-3 mots de vocabulaire pour qu'on se mette à peu près d'accord. Et puis après, je ferai un peu d'histoire. Un peu d'histoire, c'est-à-dire que comme mes amis doivent parler de Mendès et de Curien, moi, je parlerai avant Mendès et après Curien. C'est-à-dire, je verrai aux deux bouts, simplement pour donner une idée d'un certain style d'évolution qu'il y a eu, disons, dans les politiques de la recherche. Ce sera très neutre et tout à fait détendu. Hein. Mais c'est pour inciter à la discussion après. Hein, voilà. Alors, cela étant, bon, quand on parle du mot recherche, moi, je vais déjà en donner une définition simple, hein, parce que c'est bien, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait la même chose en tête. Donc, j'aime bien la donner de façon qu'on puisse parler après de politique de la recherche et de savoir quoi on parle. Alors, pour moi, la recherche doit être comprise comme une activité libre et non orientée, sans finalité a priori, bien que toujours inscrite dans un contexte, un cadre général ou une perspective. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe quoi, mais ce n'est pas non plus quelque chose qu'on vous dit de faire. Hein, c'est une nuance. Et elle est questionnement et approfondissement des connaissances. Voilà. Fondamentalement, la recherche, c'est cela. Alors, il y a d'autres termes sur lesquels je ne reviendrai pas parce que vous les connaissez bien. Il y a l'enseignement. Bon, mais l'enseignement, tout le monde sait, c'est la formation des jeunes. Il y a les diffusions. Ici, je ne vais pas parler de la diffusion puisqu'il n'y a que des professionnels de la diffusion et de l'information scientifique et technique. Alors, l'information scientifique et technique et la diffusion, ce n'est pas l'enseignement. Il ne faut pas confondre les deux. On a parfois tendance, aujourd'hui, dans les milieux pédagogiques, à confondre un peu les deux. Je pense qu'un bon enseignement permet de bien profiter de la formation et de la diffusion après. Je crois que c'est ça. On ne peut pas former les gens uniquement avec la diffusion. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et il ne faut donc pas confondre les genres. Voilà. Et puis, il y a une autre chose qui est très importante. Ça permettra de faire les premiers mots d'histoire. C'est ce qu'on appelle la valorisation. Recherche et valorisation. Alors, on attache aujourd'hui un poids considérable à la valorisation, hein, sous la dénomination d'innovation et de transfert de technologie. Hein, c'est comme ça, on appelle ça comme ça. Il n'y a là, au premier regard, rien de neuf. On se souvient à la fin des années 60, on commence à faire de l'histoire, fin des années 60, de l'ANVAR, Agence nationale de valorisation et de recherche, qui avait été créée donc sous le gouvernement de Gaulle. Puis aussi ce qu'on appelait l'écrin qui rassemblait des chercheurs et des industriels, puis les PIR, les programmes interdisciplinaires de recherche. Donc toutes ces choses-là avaient à voir avec la valorisation. Bon, alors on peut se dire, bon, aujourd'hui, s'il n'y a rien de neuf, tout a cependant changé sur le plan quantitatif et dans le style. Aussi, avant d'aller plus loin, je voudrais encore faire quelques remarques de vocabulaire parce que c'est important de savoir de quoi on parle. Et puis, je ne reviendrai pas sur ces mots. Les mots ont leur importance. Nous sommes passés d'une langue, disons, d'une logique de la valorisation, logique présente jusque dans la LRU, la loi Liberté et Responsabilité des universités de 2007, que tout le monde connaît bien, il était question de valorisation, à une logique de transfert. Dans la nouvelle LRU, ou ESR, correspondant à la loi Fioraso, il est question de transfert. Alors, l'idée n'est pas la même, pas du tout. En principe, il ne s'agit plus de chercher, travail de chercheur, puis de voir si les résultats ont un intérêt dans le monde de la production marchande, mais de faire des choses directement exploitables que l'on peut donc transférer dans l'industrie. Le rôle des laboratoires n'est plus le même. Au dire même des industriels, d'ailleurs, au peu que je sache, le concept ne fonctionne pas parce que ça ne marche pas comme ça, ils en sont convaincus, moi aussi, mais il y a plus grave. Le style de la politique scientifique a bien changé et la place des chercheurs en devient peu claire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent des ingénieurs, ils deviennent des techniciens. Qu'est-ce qu'ils font, ces hommes? Ils font de la connaissance ou pas de connaissance? Bon. En un mot, la valeur connaissance ne serait-elle pas passée à la trappe, tout autant que la recherche libre et non orientée par la même occasion? Alors, dans ce cas-là, on peut se poser la question, ce qui en est de la liberté indispensable pour la recherche. Bon, voilà. Alors, ça, c'était un petit peu de vocabulaire pour m'aider à réfléchir sur les évolutions implicites, mais fondamentales, quant au travail de chercheur ou d'enseignant-chercheur. Je dirais chercheur ou enseignant-chercheur, je dirais chercheur, c'est plus court, mais pour moi, c'est les mêmes personnels. Alors, je vais refaire un peu d'histoire maintenant pour caler un peu ça. Alors, sans remonter au début du XXe siècle, on peut dire qu'après de multiples vicissitudes, c'est le moins qu'on puisse dire, là j'ai le spécialiste des vicissitudes, Denis Gutleben, de multiples vicissitudes, une politique de la recherche, de l'enseignement et de la diffusion scientifique a vu le jour sous le Front populaire, en particulier sous l'action de Jean Perrin et de Jean Zay. Le décret de création, alors je vais donner quelques dates, ça fixe les choses, le décret de création du CNRS, est signé le 19 octobre 1939 et journal officiel du 24 octobre. Vous voyez, la date est quand même assez intéressante. Le Palais de la Découverte, lui, a été créé en 1937 dans le cadre de l'exposition internationale. Donc on voit conjointement, y compris également sous l'impulsion de Jean Perrin, donc on voit une certaine époque, création d'un centre de recherche et en même temps de la diffusion. Et aussi, ce qu'avait en tête Jean Perrin, c'était la possibilité de formation pour ceux qui n'avaient pas pu faire des études, qui avaient dû arrêter les études, de pouvoir aller au fameux Palais de la Découverte pour reprendre un peu d'études. Donc, c'était pas que de la diffusion, c'était autre chose qui était envisagé. C'était un peu, il y avait un peu de travail de formation permanente. Ben alors, avec la création du CNRS, il s'agit principalement de créer de nouveaux lieux ou d'étendre les activités de certains laboratoires, publics ou privés, de recherche scientifique pure ou appliquée. Alors, c'est intéressant, parce qu'à l'époque, c'était application, après on a eu droit à valorisation, et maintenant on a droit à innovation et à transfert. Enfin, tout ça, ce n'est pas neutre. Donc, il s'agissait aussi d'encourager et de coordonner les recherches, et spécialement en 1939, des recherches pour la défense nationale. Bien. Et puis aussi d'aider les savants en difficulté et de préparer la mobilisation scientifique. Donc c'était aussi une politique de préparation à la guerre. Le 10 juillet 1940, là je vais aller vite pour l'histoire, le 10 juillet 1940, un vote des parlementaires met fin à la République. Le 8 août 1940, Charles Jacob prend en main le CNRS. Alors il sera nommé un peu plus tard définitivement, mais Charles Jacob prend en main le CNRS, il ne le détruit pas. CNRS conservera son existence pendant la guerre, on pourra répondre à une question là-dessus, mais c'est pas. Et un nouveau texte de développement du CNRS est mis en place, c'est la loi 1069 du 10 mars 1941. Alors, c'est une nouvelle organisation du CNRS. Cette nouvelle organisation du CNRS est tout à fait intéressante parce qu'elle est marquée par un style totalement antidémocratique. Tous les pouvoirs sont entre les mains de Jacob et dénommés partout, plus d'élus. Bon, je ne parle pas d'aujourd'hui, hein, je parle de cette époque-là. Donc, dénommés partout, plus d'élus. Voilà. Frédéric Joliot est nommé à la tête du CNRS le 20 août 1944. Après un an de discussion et de rencontres, une nouvelle organisation du CNRS et de la recherche est définie par l'ordonnance du 2 novembre 1945. Qui est un exemple d'organisation démocratique et républicaine pour la recherche et l'enseignement supérieur. Alors, je voudrais m'attarder un petit peu sur cette ordonnance du 2 novembre 1945, parce que c'est elle qui conditionne le fonctionnement, disons, du CNRS, mais aussi de la recherche dans son ensemble, des laboratoires, pendant de très longues décennies. Évidemment, il y aura des difficultés, mais c'est quand même ça qui fait le cœur de la machine. Donc, cette ordonnance est signée le 2 novembre 1945 et c'est signé de Charles de Gaulle pour le gouvernement provisoire de la République française, de René Capitan, ministre de l'Éducation nationale, et de René Pleven, ministre des Finances. C'est un gouvernement de coloration diverse. Voilà. Alors, en dépit de quelques nuances, Ce texte représente effectivement les discussions qui avaient eu lieu pendant un an et des discussions extraordinairement démocratiques, puisque je le réunissais tout le monde, faisais discuter tout le monde, et les débats étaient énormes. Et un jour, il y a cette parole célèbre, mais monsieur Joliot, avec votre organisation, vous voulez nous mettre les savants en république. Et il a répondu, exactement, c'est cela que je veux faire. Donc c'est une république des savants qui se met en place, des savants, des enseignants-chercheurs, des chercheurs. À l'époque, on n'employait pas tous ces termes-là. Alors, je vais en donner quelques éléments. D'entrée, c'est pour faire des différences, c'est bien de voir les choses par nuance. D'entrée de jeu ou presque, le long développement consacré à l'exposé des motifs souligne, je cite, qu'en ce qui concerne le fonctionnement du centre, la présente ordonnance tend à associer étroitement à la vie de l'établissement les savants et les chercheurs les plus représentatifs de la science française. La réunion de ces personnalités constituera un comité national de la recherche scientifique, divisé en sections correspondant aux divers domaines de la recherche pure et appliquée. Le comité national aura pour mission essentielle de définir en session plénière la ligne générale des recherches et des méthodes de travail. À chaque section incombera la tâche d'orienter et de développer les recherches relevant de sa compétence. Ce comité national avait pour objet non pas d'être un comité national du CNRS, ce qu'il n'est toujours pas d'ailleurs, il existe toujours, mais dans des fonctionnements, un rôle tout à fait différent, c'était un comité national de la recherche scientifique pour l'ensemble des activités scientifiques en France. C'est-à-dire, c'était la communauté de ce qu'on appellerait aujourd'hui enseignants-chercheurs et chercheurs qui se réunissaient en un comité national. Ainsi, c'est moi qui le reprends, les savants et les chercheurs réunis en session plénière sont bien collégialement responsables de la ligne générale des recherches et des méthodes de travail. Alors, cette perspective est confirmée dans la suite par le passage concernant le rôle et les attributions du comité national. Là, évidemment, on peut rêver, voilà, et c'est comme ça que ça a fonctionné. Ainsi, je cite, le comité national ne sera pas un organisme purement consultatif, mais constituera une assemblée délibérante et agissante qui assumera de véritables responsabilités et participera activement par l'intermédiaire de ses sections et de ses commissions composées de membres de diverses sections à la réalisation des programmes généraux élaborés en séance plénière. Je signale bien, donc il n'est pas consultatif, c'est une assemblée délibérante, c'est-à-dire qui prend des décisions collectives et évidemment totalement transdisciplinaires, puisque toutes les disciplines sont réunies. L'interdisciplinarité est un truc évident, on en fait un bruit considérable aujourd'hui, ça existait normalement, d'ailleurs ça existe depuis plusieurs siècles, mais bon, on croit que c'est toujours nouveau. Bien, en outre, c'est au directoire, l'organe exécutif souhaité par Frédéric Joliot, qui est dévolue la direction scientifique de l'établissement. Alors, c'est un directoire choisi parmi les membres du comité national assurera de façon permanente la direction scientifique du centre. C'est-à-dire que le directoire est directement issu de l'assemblée collégiale de l'ensemble des chercheurs et enseignants-chercheurs de la communauté, qui produit un président qui est directement issu. Donc, c'est une structure que je dirais profondément démocratique et républicaine. Bien, quant au conseil d'administration, il est lui aussi fabriqué à partir de membres du directoire, plus des administratifs. Alors, les dernières lignes de l'exposé des motifs rappellent une nouvelle fois le sens profond de ce que doit être le fonctionnement d'une recherche à la fois républicaine et démocratique. Non, mais c'est pour dire que ça existait. Hein. Je cite, « En associant à l'activité de l'établissement les savants et les chercheurs les plus qualifiés et les plus actifs, en faisant d'eux non plus de simples conseillers, mais des collaborateurs réels, cette ordonnance introduit dans le statut de la recherche un nouvel élément de force et de cohésion. On est en droit d'espérer qu'il contribuera à rendre à la France, dans le domaine de la science, un rang digne de sa grandeur retrouvée. » Donc, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. On crée une instance de cette manière, on fabrique la science de cette manière pour résoudre les problèmes, disons, de la grandeur et de l'indépendance nationale. C'était ça qui était derrière. Alors, une mention particulière doit être faite aussi dans l'exposé des motifs où on va encourager une formation des jeunes. C'est-à-dire que le CNRS va s'engager aussi, je dirai après, je ferai quelques remarques, Parce que les jeunes chercheurs, enfin les jeunes étudiants de l'époque, ceux qui avaient des licences, lorsqu'ils rentraient dans les laboratoires, n'étaient pas du tout opérationnels. Ils ne le sont toujours pas maintenant, mais maintenant on s'en fiche. Donc ils étaient toujours pas. Mais on avait prévu au CNRS une formation qui permettait de leur apprendre ce que moi j'appellerais les savoirs tacites, c'est-à-dire comment on est dans un labo, comment on manipule les choses, c'est-à-dire comment on apprend de ceux qui sont déjà là à monter des manips. Voilà. Ça ne se fait pas comme ça. Voilà. Il y avait tout ça. Après, on crée les sections. Tout est là. Alors, le 4 février 1946, je continue mon histoire, Georges Tessier, professeur à la Sorbonne, directeur de la section marine de Roscoff, est nommé en remplacement de Frédéric Joliot. Frédéric Joliot prend alors la direction du CEA, qui vient d'être créé, et Georges Tessier va devoir mettre en œuvre la République de la recherche, puisque c'est comme ça qu'elle était appelée à l'époque. Alors, la tâche qui l'attend est très difficile. Et évidemment, les questions que je vais poser là sont les questions qui vont occuper la politique de la recherche dans les décennies suivantes. D'abord, comment instituer l'enseignement préparatoire de la recherche sans soulever des polémiques avec les universités et les écoles ? C'est un problème un peu récurrent, mais là, c'est un problème assez vif. Comment assumer sur le plan national la politique de coordination d'une recherche dispersée sur le territoire et dans les divers ministères ? Ça n'a jamais absolument fonctionné. Chaque ministère voulant garder ses laboratoires avec une avidité considérable. Bon, c'est comme ça, mais l'orientation était là. La recherche est rattachée à l'éducation nationale. Et pourquoi pas, comme cela avait été envisagé, à l'industrie ou même directement à la présidente du Conseil. Tout a été envisagé et vous constatez que suivant les ministères, ça change, les rattachements, ça a continué comme ça encore maintenant. Bon, la politique et les objectifs sont ambitieux. Les financements et les recrutements des personnels pourront-ils suivre ? Je dirais qu'il y a des hauts et des bas. Mais il y a eu beaucoup de bas. Bien. Ces interrogations vont pour une large part nourrir les polémiques et les attaques dont le CNRS, en particulier, sera l'objet au cours des années suivantes et, si l'on peut dire, jusqu'à aujourd'hui. Mais le CNRS avait été attaqué avant même qu'il soit créé. Donc c'est une histoire un peu normale, ça. Il n'en reste pas moins. L'ordonnance de 1945 en porte témoignage qu'une organisation de la recherche couvrant pour l'essentiel l'ensemble des disciplines, il ne faut pas oublier que dès l'entrée de jeu, le CNRS a des laboratoires de sciences humaines et sociales. C'est-à-dire que l'ensemble des disciplines est à l'intérieur du CNRS. On a toujours l'impression que c'est simplement des maths et de la physique, voire de la biologie. Non, c'est tout dès le début. Voilà. Alors évidemment, il va y avoir des modifications, mais tout est là dès le début. Et donc, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de rassembler dans un seul organisme l'ensemble des disciplines. Alors, donc, montre qu'une organisation de la recherche couvrant pour l'essentiel l'ensemble des disciplines, à la fois démocratique et républicaine, est possible, puisque ça existait. Donc, c'est possible. En outre, dans les années suivantes, le comité national sera composé de membres élus. La première fois, non, parce que comme c'était au moment de la libération, bon, il y avait un certain nombre de problèmes avec certains collègues qui avaient, disons, été plus... Bon, ils n'avaient pas tous été de la même... Disons, résistants de la même manière, si je puis dire. Bon, donc, mais les deux années suivantes, c'est une élection du comité national composé de membres élus en majorité et de membres nommés pour créer un équilibre. Bien. Donc, c'est une sorte de parlement de la recherche qui se met en place et qui va fonctionner. Alors, cette nouvelle organisation de la recherche française a été très féconde, de telle sorte que la France est devenue sous l'impulsion de Pierre Mendès France, dont on parlera tout à l'heure, et aussi sur l'impulsion économique et politique de Charles de Gaulle. Il n'aura pas le même rôle. D'un certain point de vue, les idées sont de Mendès France et la mise en forme est Charles de Gaulle. Mais enfin, bon, bref, on en parlera tout à l'heure. C'est simplement pour faire l'histoire. Et entre autres, une grande puissance scientifique et industrielle. Donc ça a marché. Au troisième rang mondial, à la fin de la période gaulliste, nous avons d'abord très lentement reculé. Bon, pour nous enfoncer ensuite dans les classements, au-delà de la 10e place depuis une dizaine d'années. Je serai discret sur la place réelle, ne voulant pas choquer tout à chacun ici. Je parle des budgets accordés à la politique de la recherche. Alors, qu'observe-t-on aujourd'hui concernant la politique scientifique ? On peut se dire, alors, je vous ai donné un exemple, ça a marché d'une certaine manière, ça a donné des résultats. de vos résultats. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour répondre à des difficultés? Alors, d'abord, on y répond par une baisse des financements, en particulier des financements récurrents, qui permettent le travail de fond sur le long terme dans les laboratoires, ce qui était l'orientation initiale. Pour travailler dans un laboratoire, il faut de l'argent sur le long terme. Ce n'est pas en donnant des coups de pouce de temps en temps, certainement pas. Et ne pas le faire, c'est l'assèchement des nouveaux résultats pour l'avenir, puisqu'en ce moment, on est en train de profiter des résultats d'il y a 15 ou 20 ans. Donc, on verra dans 15 ou 20 ans ce qui se passera. Bon, ça, c'est le premier point. Ensuite, une multiplication de la précarité et la disparition progressive des postes stables ou statutaires. Et à mon avis, cela est très grave, non pas parce que je suis un forcené de la fonction publique, mais simplement pour des raisons pratiques, tout simplement pour des raisons pratiques, parce que c'est la transmission des savoirs et des savoir-faire qui ne se fait plus dans les laboratoires. C'est-à-dire, un jeune chercheur, il n'est pas là simplement pour passer d'un laboratoire à un autre, c'est-à-dire voyager à travers toute l'Europe successivement avec des postdocs, des bourses et des trucs comme ça, jusqu'au moment où on le dégage et il fera autre chose, chauffeur de taxi ou que sais-je. Mais il doit, dans le laboratoire, être là avec ceux qui y sont déjà, travailler avec ceux qui y sont déjà pour apprendre les savoir-faire et comment manipuler. C'est tout. Il faut être clair, que ce soit en mathématiques ou dans n'importe quelle autre discipline, il doit y avoir une transmission des savoirs entre les générations. Elle ne se fait plus du tout. Et on en paiera très cher. Pour certaines études qui ont été faites au CEA, on a fait revenir les retraités. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus, parce qu'évidemment, les autres ne sont pas formés, parce qu'ils n'ont pas le temps. Vous ne pouvez pas être formé quelqu'un en le faisant passer d'un laboratoire à un autre. Ça n'existe pas. Bon. D'ailleurs, en 1945, c'est ce à quoi ils avaient pensé, c'est-à-dire qu'ils disaient, bon, on va garder les gens, on va les former un petit peu et les laisser dans le laboratoire quelque temps pour qu'ils apprennent le métier. Le métier s'apprend sur le long terme. Alors ensuite, on a affaire à un dirigisme étatique qui rappelle des fonctionnements et des périodes passées dont on n'imaginait plus le retour. Alors une ANR, vous connaissez bien, une Agence nationale de la recherche, composée de membres nommés exclusivement, ça me rappelle quelque chose, et distribuant sur projet, dans une belle opacité, ça on ne peut pas dire le contraire, les budgets sur des programmes déterminés d'en haut et sur le court terme, des sommes faramineuses. Une AERES, hein, devenue, pas tout à fait encore, mais presque, HERES. En ce moment, il y a des débats pour savoir comment ça sera. Bon. À mon avis, ça sera pareil. Composé de membres nommés, tous, évaluant hors de toute collégialité, j'en ai fait partie, les équipes sur des critères qui ont été mis en cause par l'ensemble de la communauté et même par l'Académie des sciences, ce qui est quand même pour d'autres raisons, mais elles l'ont mis en cause. Bon, donc c'est tout dire. Donc, cela induit une dévalorisation extrême des instances élues et collégiales. Que ce soit le Comité national de la recherche scientifique, dont on a parlé tout à l'heure, qui était délibérant et qui est strictement consultatif, et encore on ne le consulte plus beaucoup, et ça sert plutôt disons, à élire des nouveaux collègues, hein, c'est tout pour la politique. Non, non, ce n'est pas votre problème. Bon, évidemment, bon, ce n'est pas notre problème. Bon. Et aussi le Comité national des universités, le CNU, que l'on a d'ailleurs failli supprimer il y a 6 mois au Sénat. Ben, ils ont raté le coup, ils voulaient le supprimer. Ah, on s'est trompé, c'est parce qu'on voulait. Bon, enfin bref, il est encore là, mais à mon avis, son existence est précaire. Bon, il y a aussi une chose qui est l'apparition du management à l'université et au CNRS, qui conduit à un dirigisme, mais qui devient quelque chose d'extraordinaire et qui me semble tout à fait contraire à la vie scientifique et intellectuelle. Totalement contraire. Et puis, bien sûr, pour le tout, ce dont j'ai parlé au début, le rôle privilégié à l'innovation sur la recherche et le développement des connaissances. C'est-à-dire que, pour caricaturer un petit peu, on prend 45, on regarde aujourd'hui, c'est le positif et le négatif. Bon, eh ben on verra ce que ça donne. Dans 20 ans, celui qui viendra parler là, on verra ce qu'il dira. Donc, une politique donc en opposition complète avec celle construite en 1945 et dont l'efficacité a été prouvée pendant plusieurs décennies, soit par ses réussites, tant sur le plan industriel, de très belles réussites, que sur celui de la recherche et des connaissances, puisque Sur le long terme, cette politique a permis d'avoir des prix Nobel et de nombreuses médailles Fields en mathématiques. Je pense que ça ne va pas continuer. Bien. Alors, je vais finir par une petite provocation. J'en ai pas fait jusqu'à maintenant, je peux bien en faire une. Donc, je constate qu'en voulant faire de l'argent vite, c'est ça l'innovation, en voulant faire de l'argent vite et de la fausse croissance, parce que c'est du demi-point de PIB. Le demi-point de PIB, c'est bien aujourd'hui, et dans 10 ans, ça sera quoi, le demi-point de PIB, quand plus personne sera capable de lire même les ouvrages scientifiques, puisqu'on ne les aura pas formés. Bon, on sacrifie la recherche et on conduit la nation à n'être plus, comme le disait déjà Joliot-Curie, à n'être plus qu'une colonie. Je vous remercie.